Bon, allez, on commence.
Ok, Birbol.
Parce qu'on a plein de trucs à dire.
Ouais, allez, c'est parti. Bon. L'intro ?
Ouah. L'intro, en plus, 19 secondes, c'est 19 secondes de perdu. C'est comme ça.
Non, aujourd'hui, on va passer de la musique quand même.
Oui, pas beaucoup.
Ouais. Alors, les virus aujourd'hui ?
Oui, les virus et évidemment les corollaires, pandémie, épidémie, etc., etc.
Ce ouais. genre de choses, ouais.
Oui.
Du coup, les virus, bah, le dernier virus qui est passé par là, il s'appelle Covid-19.
Oui, enfin, avec un gros retentissement, oui.
Voilà, il y a eu un gros paquet de n'importe quoi qui a été raconté, mais aussi un gros paquet de vulgarisation qui a été faite à ce moment-là sur les virus.
Oui.
Et du coup, moi, j'ai pu m'appuyer là-dessus pour mes contenus. Je suis très, très content d'avoir pu avoir accès à quelques vulgarisations qui ont été faites à ce moment-là, quoi. Et où les gens ont pris le temps vraiment d'expliquer. Des virologues qui sont venus parler, qui ont pris le temps d'expliquer vraiment. Voilà. Du coup, la virologie, parce que moi je vais parler de virologie à un moment donné, c'est une science très récente. 1898, première utilisation du mot virus, qui veut dire venin en latin.
Ok.
Ok. Parce qu'en gros, ils avaient découvert un truc, c'était pas une bactérie, mais pourtant, ça faisait une infection.
Ça contaminait.
Voilà, on savait pas ce que c'était. Et du coup, ils appelaient ça du venin, du virus. À l'heure actuelle, on connaît environ 10 000 virus, un peu plus. Ce qui est très très peu parce qu'on pense qu'il y en a plusieurs milliards.
Ah, probablement.
Voilà. Parce qu'en fait, le biais qu'on a, c'est qu'on s'intéresse aux virus qui concernent l'être humain et les adjuvants de l'être humain, c'est-à-dire les plantes qu'on cultive, les animaux qu'on élève, ce genre de choses. Et on va pas beaucoup plus loin parce que les virus du papillon, écoute, ils ont qu'à se débrouiller avec les papillons, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Alors que c'est si mignon, un papillon.
Voilà. Voilà. Et grande question à laquelle on va essayer de répondre tout à l'heure, c'est est-ce que c'est bien du vivant?
Le virus?
Ouais. C'est vivant
pas,
ou pas?
C'est pas entre les deux?
Hey, justement, ça pose pas mal de questions.
Ah, d'accord.
Et deuxième chose, c'est, mais les virus, comment ils naissent, d'où ils viennent, c'est quoi les réservoirs de virus, un petit peu? Alors, on va s'intéresser à ce genre de petites choses de notre côté.
La taïga.
Alors, le permafrost, je peux le régler en deux-deux, si tu veux. Quand il dégèle trop lentement et ça tue les virus qui sont dedans.
Ah, zut. Enfin, tant mieux.
Oui, tant mieux, en fait. En fait, il faudrait dégeler du permafrost, en gros, le mettre au bain-marie à 37 degrés, là, paf, et là, t'obtiens des virus. Et c'est ce qu'ils font en laboratoire pour récupérer des anciens virus.
Ouais.
Mais comme ça se réchauffe doucement, quand même, malgré le fait que ça se réchauffe très vite au niveau climatique, enfin, à l'échelle des temps géologiques, c'est très rapide, mais à l'échelle de la vie du virus, c'est trop lent.
Très bien, tant mieux.
Voilà, donc on peut se rassurer là-dessus un petit peu.
Bon, les virus en science-fiction.
En avant.
Alors, je vais essayer de résumer parce qu'il y a, en fait, abondance. Ne serait-ce que parce que, par exemple, 90% de la littérature et films, séries sur les zombies, à la base, il y a un virus, évidemment.
Et le virus qui rend zombie.
Voilà, c'est ça. Bon, alors...
Celui-là, on ne l'a pas encore trouvé. Hein.
Non. La première... si, ça s'appelle CNews. Alors, la première...
Pardon. Un point pour toi.
La première véritable incursion de ce thème dans la science-fiction, c'est de la part d'un auteur qui est célèbre pour d'autres genres littéraires, c'est Jack London, qui a écrit en 1912 un livre, La peste écarlate, qui décrit une grande pandémie. C'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est quelques années avant la grippe espagnole quand même,
oui.
Donc... Et en fait, c'est raconté du point de vue de gens qui ont survécu, mais plusieurs générations plus tard, et qui essaient en quelque sorte, avec notamment un vieux dans une grotte, une espèce d'ermite, de rebooter la civilisation qui, évidemment...
Ah, de relancer la civilisation qui
évidemment s'est effondrée entre-temps.
C'est un post-apo, en fait.
C'est la plupart des histoires de virus sont des pendant-apo ou des post-apo.
Ouais. Grippe espagnole, tu en parles, j'en parle deux secondes, vachement intéressant, la plus grosse pandémie, en nombre de morts, la plus grande pandémie que l'humanité ait eu à affronter, hein, parce qu'on était assez nombreux pour faire beaucoup plus de morts qu'à la peste noire.
Ah oui, parce que par contre, en termes de pourcentage de population,
c'est
je pense que la peste noire
peste
gagne,
noire. Oui.
Clairement.
Mais en nombre de morts, on dépasse les nombres de morts de la guerre mondiale,
D'ailleurs, j'en reparlerai un peu plus tard. Bon, après, on a un bouquin qui n'est pas spécifiquement de la science-fiction, mais qui est tellement dans le thème que ce serait dommage de s'en priver, c'est La peste de Camus.
De Camus, ouais.
Qui se passe à Oran, si je ne dis pas de bêtises. Oran et Alger, mais surtout à Oran, si je me souviens bien. Qui donc décrit de manière très réaliste une épidémie qui, au départ, est un peu sous-estimée, puis finalement se révèle beaucoup plus sérieuse. C'est intéressant de savoir que Camus, il pensait... Dès le bouquin de 47, Camus a jeté idée dans ses carnets dès 38-39, a commencé à vraiment réfléchir au bouquin en 41, Alors que, et il y a eu deux épidémies en Algérie de peste assez importantes en 44-45. Donc, okay. Il était...
Précurseur.
Ah, il était en quelque sorte précurseur, le pauvre. En 49, on a un classique, là encore, qui est vraiment un post-apo, mais qui est, par exemple, disponible en folio généraliste, en folio blanc, d'un très beau livre qui s'appelle « La Terre demeure » de George Stewart, d'une formule biblique. Et c'est pareil, c'est sur la... Enfin, on a d'abord toute la... Un type qui se retrouve isolé à la montagne, qui tombe malade, mais indépendamment. Même sur dans sa montagne un peu isolée, il entend qu'il y a des gens qui galopent sur le chemin de montagne, qui sont effrayés, etc. Puis quand il ressort, ben, il n'y a quasiment plus personne. Quoi. Tout le monde est mort. Ça a été foudroyant. Et ça lui a, d'avoir été malade, lui a permis de survivre, paradoxalement. Et... Mais il y a évidemment, comme dans toute maladie, des immunisés.
Oui.
Et donc comme ça, petit à petit, il arrive à recréer, il arrive à amalgamer autour de lui une espèce de micro-société. Et le but étant, à terme, là aussi, de relancer un peu la civilisation.
Et alors c'est marrant parce que le pitch que tu fais là, donc le mec est isolé dans sa montagne et quand il est isolé un grand moment puisqu'il est malade longtemps, et quand il redescend de sa montagne, ben en fait il n'y a plus personne ou pas grand monde. Ça ressemble beaucoup à celui qui tombe dans le coma et qui se réveille, il n'y a plus que des zombies.
28 jours plus tard.
Voilà, 28 jours plus tard, par exemple. En fait, c'est le même pitch un petit peu régulièrement. Quoi. Oui. Des conditions particulières qui font que toi, t'es épargné.
Sinon, il n'y a pas d'observateur, tout le monde est mort. Il n'y a pas d'intrigue non plus.
Il doit y en avoir quand même, peut-être, tu vas peut-être répondre à ma question, juste, je suis immunisé. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, moi, la maladie ne prend pas sur moi. Et on est quelques-uns.
Qui serait le héros ou le protagoniste.
Ouais, le héros du truc et qui pourrait être celui qui raconte.
Ah, ben oui, il y a Je suis une légende.
Ah, ben je suis une légende, exact.
De Richard Matheson. Où quelque chose qui ressemble au vampirisme est en fait le produit d'une épidémie, et il y a un type, apparemment au début, qui est immunisé. Et dans le roman, il est seul.
Ouais.
Il y a
une communauté, ouais.
Voilà.
Mais en plus, il est chercheur et tout ça, c'est ça le truc, oui. Quoi. Il cumule.
C'est ça.
Ah, bah, obligé, hein.
Ça aide.
Sinon, on ne peut pas faire grand-chose.
En 1956, on a une version amusante et originale du thème. C'est un roman d'un auteur anglais qui signait John Christopher, qui a été par la suite très connu comme auteur de science-fiction pour la jeunesse, la trilogie des Tripodes, qui avait été adaptée en série par la BBC et qui est passée à la télévision française. Une bonne série, d'ailleurs.
Je l'ai vu gamin et ça m'avait effrayé un peu.
Ah ben, c'est très très bien. C'est très très bien fait.
Très bien fait, ouais.
Et donc, son premier véritable roman connu pour adultes, par contre, c'était un livre qui s'appelait Terre brûlée. Et l'originalité du thème, c'est que c'est un virus qui attaque les plantes.
C'est ça.
Et donc... Ah ben, c'est pas très grave. Si, il n'y a plus rien à bouffer très vite, en fait. on a ensuite, pareil, un auteur très connu qui est Michael Crichton, l'auteur de Jurassic Park,
oui.
Qui avait fait un bouquin qui s'appelait La variété Andromède, où là, c'est en 69, donc il avait un peu surfé sur l'intérêt pour le programme spatial. Et en gros, on envoie des satellites autour de la Terre, et il ramène un truc, et il ne fallait pas.
Il ne fallait pas, ouais.
Il ne fallait pas, il ramène un virus extraterrestre.
Et en plus, la menace, comme d'habitude, est sous-estimée.
Exactement.
Il y a le contexte de guerre froide, si je ne dis pas de bêtises, qui fait qu'on ne peut pas balancer une bombe nucléaire dessus tout de suite, parce qu'en fait, ça affolerait le monde entier.
C'est ça.
Plein de choses comme ça, en fait.
C'est compliqué. Pareil, adapté au cinéma, assez vite d'ailleurs, avec un assez bon film qui s'appelle Le Mystère Andromède, dans ce cas précis. Après, on a un grand auteur de science-fiction anglais, à nouveau John Brunner, qui a fait un grand nombre de romans célèbres, y compris tous Zanzibar, etc., et qui avait écrit un roman en 73 qui a été titré en français Virus. Et alors, c'est le futur proche en Angleterre. Le fascisme rampant, hooligan, violence raciale, émeute, etc. On croirait les États-Unis actuels. Et le virus qui se répand, répand en fait l'intelligence.
Oh.
Et donc, ça miraculeusement, enfin, merveilleusement, en tout cas, ça résout un peu tous les problèmes. C'est un rare exemple de dystopie optimiste.
Ouais, mais ça doit foutre un bordel terrible que tous les gens soient intelligents.
Complètement.
Les dirigeants doivent pas être bien. Hein.
Complètement. quelques années plus tard, en 78, on a Le Fléau de Stephen King, oui. Alors qui est un peu le texte majeur, puisque là, c'est une super, d'ailleurs, ça s'appelle comme ça, une super grippe, qui est fabriquée par l'armée américaine, oui. Et qui s'échappe d'un laboratoire à la suite d'un incident.
C'est l'autre grande thématique, ça.
c'est l'autre grande thématique, et qui tue 99,9% de la population, mais donc, il y a 0,1% de survivants, et qui vont se retrouver petit à petit et s'amalgamer en deux camps, pour simplifier, mais c'est assez simpliste de toute manière, le bien et le mal.
Ok.
Voilà. Très chouette bouquin, énorme, qui a été d'ailleurs augmenté par la suite parce qu'on lui avait demandé de couper son livre qui était vraiment trop énorme. Mais bon, vu le succès que ça avait eu et vu la stature que King avait acquis 10 ans plus tard, il a pu republier le bouquin en intégralité, quoi. Et là, c'est vraiment... Enfin, on peut assommer quelqu'un avec. Ensuite...
Tu veux dire par sa lecture ?
Non, c'est vachement bien. Au moins, c'est un de mes Stephen King préférés. C'est un bouquin que j'ai lu 3 ou 4 fois. Et promis, il fait 1200 pages en grand format.
Ok.
Il y a eu 2 adaptations en mini-série.
C'est ça.
Plutôt sympa, sans être transcendante.
Sans être génial, ouais.
Ensuite, on a... Celebrity Motor, qui est dans l'actualité à nouveau, puisque la Dune 3... va sortir à la fin de l'année. Donc Frank Herbert
oui.
Qui a écrit un espèce de techno-thriller un peu assez science-fictif qui s'appelle La Mort Blanche en 82. Et c'est l'histoire d'un type qui est virologue justement, enfin chercheur, et qui devient fou à la suite d'un attentat qui a tué sa femme et son fils par simple victime collatérale.
Ouais.
Et qui crée quelque chose qui en fait efface la moitié de l'humanité, c'est-à-dire les femmes.
Oh.
Ce qui n'est pas exactement le but recherché au départ, si j'ai bien compris, si je me souviens bien.
Mais la moitié de l'humanité, ça suffit à détruire l'humanité, ça.
Ah ben là, ça va être un gros problème assez vite. Oui.
Bah oui.
Incidemment, c'est un bouquin qui avait eu plusieurs rééditions et qui était un peu tombé dans l'oubli. Et bizarrement, il a été réédité fin 2020. Je ne vois pas du tout...
Je ne vois pas le rapport.
Je ne vois pas le rapport. Bon,
rapport avec le SARS,
le SARS-CoVID serait machin. Ouais. Il y a une très belle novella de Norman Spinrad, autre grand auteur américain, polémiste, qui vit en France depuis des décennies maintenant, qui a écrit une très belle novella qui s'appelle Chronique de l'âge du fléau, dans un recueil de 3 courts romans qui s'appelle Les années fléaux, très bon recueil. Et celle-là spécifiquement, c'est une espèce de super sida qui dévaste. Essentiellement New York, parce que c'est vraiment là où le focus du texte est situé. Mais bizarrement, là encore, il va trouver une fin optimiste, quoi. Et c'est un truc qui est absolument terrifiant, déjà que le sida en soit moyen.
C'est pas mal.
Mais là, c'est vraiment la version 2.0 et elle est vraiment pénible. Autre très gros livre, pas tout à fait aussi gros que Le Fléau, c'est un roman de voyage dans le temps à la base de Connie Willis qui s'appelle Le Grand Livre. Qui est un très beau livre, sur des chercheurs en histoire, en archéologie, etc., qui ont accès à une machine à voyager dans le temps, et qui décident de partir étudier la construction d'une cathédrale, si je ne m'abuse, à Londres, en 1320. Ah. Le problème, c'est qu'ils se plantent de quelques années, et ils arrivent en pleine peste noire, et
dommage.
Ça, divers problèmes s'en suivent.
Le pire qu'ils auraient pu faire, c'est rentrer à la maison.
Oui. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas. Pas tout de suite, en tout cas.
Du coup, heureusement.
Voilà. Et du coup, c'est un chouette bouquin, extrêmement bien documenté, mais qui n'est pas du tout barbant ni rien. C'est vraiment très, très bien. Couvert de prix. Le Hugo, le Nebula, le Locus, c'est-à-dire les 3 principaux prix du domaine.
Souvent, ça veut dire quelque chose, quand même. Voilà. Un petit peu. Hein.
Voilà. Ensuite, on a... un roman d'un prix Nobel de littérature. Alors, il ne l'était pas encore, mais ça a probablement contribué parce qu'il l'a eu 2 ans plus tard. Un écrivain portugais qui s'appelait José Saramago, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Aveuglement, qui a été traduit chez Actes Sud, si je ne dis pas de bêtises, qui est un très bon bouquin où l'épidémie, et c'est vraiment une épidémie, il y a un patient zéro, etc. On voit comment ça se répand au départ, etc., qui rend les gens aveugles. Mmh. Et donc, comment gérer ça, en fait? Parce qu'évidemment, la société n'est pas du tout prévue. Déjà, elle n'est pas prévue pour les aveugles tels qu'ils sont actuellement. Mais quand c'est l'humanité entière qui devient aveugle, c'est encore un autre souci. Assez chouette film avec Julianne Moore, un film américain qui a affadi un peu le propos, mais qui est J'ose à peine dire regardable, mais oui, regardable. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès.
Ça a dérapé.
Ensuite, on a un bouquin qui, pareil, est sorti un peu hors science-fiction, parce qu'il a été traduit dans une collection de polar. Emily St. John Mandel, Station Eleven. C'est un lieu, hein, c'est pour ça que je le dis à l'anglaise. Qui, pareil, est un post-apocalyptique, là. Et c'est l'histoire d'une... Donc après une pandémie, qui pareil a bien, bien, bien réduit l'humanité, c'est l'histoire d'une troupe de théâtre, spécialement Shakespeare, qui fait des tournées en Amérique du Nord parce que, c'est la devise du roman, survivre ne suffit pas.
Ouais.
Il faut aussi de l'art, de la culture,
il faut vivre.
Etc. Il faut vivre aussi. Très, très chouette bouquin. Un livre, deux, trois, c'est promis. Je ne parle pas des films. Un bouquin très original de Shaina Mieville, qui est un auteur très original en général, et qui a fait un beau livre qui s'appelle Légationville, qui se passe sur une planète extraterrestre, avec contact entre l'humanité et les extraterrestres. Et, alors ce n'est pas une histoire de contagion simple, c'est que ces extraterrestres sont incapables de mentir. Parce qu'ils ont deux bouches et qu'ils peuvent dire deux choses à la fois et que ces choses-là ne doivent jamais se contredire. Et quelqu'un arrive qui dit « c'est pas possible que ça existe, ça, il faut qu'on arrive à les subvertir ». Et donc, ils répandent un virus qui affecte le langage. Très, très chouette bouquin. Pas évident, mais très, très chouette bouquin. Et idée très originale.
Et comment pouvez faire des humains avec des entités qui ne savent pas mentir? Ça doit être compliqué comme relation.
Eh ben, ils leur inoculent un virus
pour qu'ils arrêtent leur connerie. Qu'ils soient capables de mentir.
Alors, un peu dans le même type que le fléau, un bouquin d'un Américain qui s'appelle Chuck Wending, qui s'appelle Les Somnambules en français. Pareil, un énorme livre. Qui est sorti en 2019, que j'ai lu fin 2019, début 2020, et dans lequel, à la suite d'une tribu de chauves-souris qui sont dérangées dans une grotte en Chine et qui s'échappent et qui répandent un truc.
Je vois le genre.
Bon, voilà. Et sauf que la maladie, là, c'est du somnambulisme. C'est-à-dire que les gens deviennent complètement... littéralement somnambules, mais on ne peut pas les tirer de ça.
De leur sommeil,
ils ont tous un tropisme qui les amène à aller, à marcher toujours dans la même direction et tout. Et souvent, enfin, leur famille les suit, essaie de les protéger, essaie de voir qu'ils ne soient pas, je ne sais pas moi, tués, etc.
Et donc en fait, ça met tout le monde en migration.
Exactement. C'est très, d'ailleurs, le bouquin américain s'appelle The Wanderers, Les Vagabonds. Et c'est un très, très, très chouette livre. Et enfin, je vais conclure avec un bouquin qui est sorti hors collection, spécialisé. C'est souvent le cas. Dans la plupart de ces cas, c'est des livres qui ont eu un succès de best-seller, souvent. De Sekoya Nagamatsu. Ce nom ne s'invente pas, et c'est son vrai nom. C'est quelqu'un d'Hawaï, je précise, qui s'appelle Plus haut dans les ténèbres et qui raconte sur plusieurs décennies l'évolution de l'humanité alors qu'une épidémie qu'on n'arrive pas à soigner affecte essentiellement les enfants. Et que fait-on? Comment fait-on son deuil?
Mais en fait, c'est un retour dans le passé de l'humanité? Avant la période vaccinale.
La période où on perdait beaucoup d'enfants.
Bah oui, parce que.
Et on avait 10 enfants par famille pour espérer en amener un ou deux à l'âge adulte.
Oh, oui, c'est ça.
C'est un peu ça, oui.
Mais
très, très beau bouquin qui a été réédité chez Poinceuil et que je recommande vivement. Voilà. Ça y est, j'ai fini.
Ouais, joli tour d'horizon.
Ah, 19 minutes quand même.
On lance la musique?
Oui, si tu veux, on peut faire ça, oui. Allez, Brigitte Fontaine et Jacques Higelin.
Qui chantent la grippe?
Bon, d'accord.
Okay. La grippe, virus qui tue le plus de monde depuis
plus
d'années.
Allez, on se retrouve après, hein, tu peux vraiment commencer à travailler. Parce que là, c'est moi qui fais tout le boulot pour l'instant.
Allez, à tout de suite sur CFM.
À tout de suite.
Ma grippe vous va très bien,
m'a dit mon amant ce soir.
Ça vous donne un joli teint, ça vous va mieux que le noir. Ma grippe vous va très bien.
Souffrez que je tousse un peu, lui ai-je dit d'un air doux. souffrez que je souffre un peu. J'ai parfois très mauvais goût. Souffrez que je souffre un peu.
Quand vous souffrez, mon ami,
m'a répondu mon amant,
vous ressemblez à la pluie. Je trouve ça très saillant. Quand vous souffrez, mon ami,
j'ai un peu peur et je dis que les larmes me vieillissent. Et j'ai un peu peur aussi que la fièvre m'enlaidisse. J'ai un peu peur et je dis.
Elle vous vaut comme un gant. Vous savez bien que vos larmes me plaisent beaucoup vraiment. Votre fièvre a bien du charme. Elle vous rend comme un gang, 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 gang.
Ah vraiment, je suis trop maigre.
Belle voix.
Je sens que je m'affaiblis.
Très belle voix. Bon, Ghislain, c'est, on le savait, mais Brigitte Fontaine, c'est vrai qu'on la, on la connaît un peu différemment maintenant.
C'est ça. En tout cas, très beau duo.
Oui.
Et donc, il chantait la grippe. Le virus de l'humanité qui tourne et qui tourne encore autour de la planète, toujours encore actuellement et depuis très longtemps, et qui a tué énormément de personnes.
Oui.
Vraiment énormément. C'est le virus, on va dire, accroché à l'être humain qui a tué le plus de monde, et de loin quand on regarde l'histoire.
Ouais.
Bon, très bien, on dit des virus et tout ça, mais c'est quoi un virus ? Pierre-Paul, c'est quoi un virus ?
Un virus, c'est une information.
Une information ? Ah oui, c'est des 1 et des 0.
Bon, déjà, il y a les virus informatiques, mais on voilà. les appelle les virus informatiques justement par analogie.
Au virus.
Parce qu'un virus, c'est l'information cellulaire.
C'est ça, on va dire que c'est un petit peu ça.
De grosses bêtises. J'ai pas révisé, moi.
Ben bah oui, mais je sais bien, c'est pour ça que je t'interroge.
Ouais, d'accord.
Et oui, mais c'est ça. Mais c'est très bien résumé, c'est même presque trop résumé.
Sans doute.
Ouais, et oui, c'est normal. Et en fait, il n'y a pas de définition à l'heure actuelle qui fait consensus. Parce que l'étude des virus, en fait, c'est donc très récent. Et là, on est en train de découvrir tout un monde qu'on n'imaginait pas. Alors, je vais m'expliquer. À l'heure actuelle, la définition qu'on apprend quand on fait des études de virologie, c'est une structure de petite taille, d'accord ? C'est tout petit.
Oui.
Plus petit que les bactéries.
Donc, c'est plus petit qu'une bactérie.
Ouais. Alors, la cellule, c'est 10 micromètres. Micromètre, c'est... tu vois ce que c'est, micromètre ?
Oui.
C'est un millième de millimètre.
Oui.
Okay, 10 micromètres, la cellule humaine, par exemple. Oui. Une bactérie, c'est 1 micromètre,
oui.
En moyenne.
Oui.
D'accord ? Et le virus, ça serait 0,2 micromètres, à peu près. Donc, 5 fois plus petit qu'une bactérie en moyenne.
D'accord.
C'est un parasite intracellulaire. C'est-à-dire, c'est un parasite qui va aller parasiter les cellules de son hôte. Donc, bah, oui. Quand c'est un être unicellulaire comme une bactérie, bah, il va parasiter la bactérie. Mais quand c'est un être multicellulaire comme un mammifère, par exemple, bah, il va parasiter des cellules petit à petit. Et puis, il va essayer d'en parasiter le plus possible.
D'accord.
Il va en parasiter le plus possible à l'intérieur. OK ? On dit que c'est un assemblage moléculaire acellulaire, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est tout un paquet de molécules bien assemblées, bien structurées, avec une membrane et tout ce que tu veux, tout, mais ce n'est pas une cellule. Pourquoi ?
Okay.
Parce qu'il y a, alors déjà,
il n'y a pas de noyau ?
Bon, alors, il n'y a pas de noyau, il y a plein de cellules qui n'ont pas de noyau, hein.
Ah, ouais,
ça
d'accord.
existe, mais il n'y a pas tout le matériel pour dupliquer l'information génétique, pour se dupliquer en fait. Et il n'y a même pas le matériel pour avoir un métabolisme, voilà.
D'accord.
D'avoir un métabolisme. Donc il manque des trucs pour être une cellule.
Bah, c'est juste une arme.
C'est pas vraiment une arme, c'est juste de l'information génétique,
oui.
Comme tu le dis, parce qu'il y a un génome qui est composé d'un seul type de truc. Soit c'est de l'ADN, comme nous, comme nos cellules, soit c'est de la ARN. Alors, ARN, c'est la transcription dans notre système à nous, de nos cellules. L'ADN, c'est l'information génétique. L'ARN, c'est en gros le négatif de l'ADN, tu vois. C'est l'information, mais codée autrement.
Mais ça, c'est très bien. Parce
pour aller fabriquer des protéines.
Du coup, ça permet de rendre les virus utiles.
Ouais, ça on verra après leur utilité dans un deuxième temps. Et du coup, mais t'as raison, hein, ça, on va même copier les virus pour faire des vaccins. Ça va être ça l'utilité, la très grosse utilité qu'on a, mais il y a même d'autres utilités. Et du coup, ouais, donc c'est l'information génétique, elle est soit sous forme d'ADN, soit sous forme d'ARN.
Okay.
D'accord ? Voilà. Et elle est dedans, et souvent, il y a un seul brin, un seul chromosome, un seul morceau, quoi.
Entendu.
Linéaire ou bien circulaire, enfin bref, il y a plusieurs formes comme ça. Bon, mais jusque-là, tout va bien. Et on remarque.
Oui, enfin.
Ouais, dans cette définition-là.
Ce dont on se parle, oui, tout va bien. Oui.
Voilà. Mais cette définition-là, tout a l'air d'aller bien, tu vois. Mais déjà, on peut remarquer une première chose, il n'y a pas de notion d'infection. Il n'y a pas de notion de maladie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des virus, en fait, qui sont dans leurs hôtes et qu'il n'y a aucun problème. Par exemple, chez l'être humain, on a tous des virus d'herpès.
Oui.
Et qui s'exprime que quand on est immunodéprimé, ou fatigué, ou ce que tu veux. Voilà. Et sinon, on l'a tous et on vit avec et il n'y a aucun problème. Il y a un équilibre qui se crée entre le virus et le système immunitaire et voilà. Pas de souci, il se balade avec nous. Et du coup, c'est un virus qui a gagné ça. C'est un virus qui a trouvé un hôte qu'il tolère. Et du coup, il peut se dupliquer, continuer à vivre sans aucun problème.
Oui, son but étant la survie, il a réussi.
Et voilà, il arrive à pas tuer son hôte. Mm. Du coup, c'est un bon virus ça. Mm. Parce qu'il va durer dans le temps autant que dure l'espèce hôte. D'accord. Au minimum. Voilà. Et puis après, sur la taille. La taille, on dit, attends, c'est tout petit. Mais en fait, non. C'est parce que dans l'étude des virus, en fait, on filtrait d'abord les substrats, si tu veux, dans lesquels on essayait d'isoler des virus. Et en fait, on les filtrait avec des filtres qui ne laissent pas passer les bactéries pour trier. On gardait que des virus. Et du coup, on voyait que des virus plus petits que des bactéries.
Ah oui, d'accord. Il y en a un plus gros.
Un vrai biais.
D'accord.
Et qui a duré jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Et en fait, maintenant, on a des virus qui sont genre 10 fois plus gros que des bactéries, quoi.
Ah d'accord, ok.
Voilà. Et on appelle ça des virus géants, des mimivirus. Une famille. Et ces virus, ils infectent des amibes. Alors, les amibes, c'est des êtres unicellulaires, mais c'est des cellules qui sont très grandes, comme le blob, par exemple.
Oui. Tu vois.
Et, voilà. Et donc, ces mimivirus sont des gros virus, vont infecter des grosses cellules. C'est assez rigolo.
Entendu.
Et il y a des virus qui ont assez...
La taille, ça compte.
Oui. C'est ça. Il y a des virus qui sont assez gros pour être eux-mêmes infectés par des virus.
Oui,
ça, c'est bizarre, des virus de virus.
Oui, j'avoue.
Ouais. Voilà. Et alors, du coup, ça pose la question du vivant. Parce que, on dit que c'est pas vivant un virus parce que ça peut pas lui-même avoir un métabolisme, justement, consommer de l'énergie et, tu vois, et se dupliquer. Enfin, bref, avoir des échanges avec l'extérieur et consommer de l'énergie et des nutriments. Mais en vrai, si c'est pas vivant, ça veut dire que les virus, ils s'infectent pas que des trucs vivants, puisqu'ils infectent des virus.
Mmh.
Mais, donc, non, le virus, c'est vivant.
Oui.
Puisqu'il est infecté par un virus. Enfin, ça pose question.
Puis comme dirait Arnold, si ça saigne, on peut le tuer.
Alors, est-ce qu'un virus saigne? Non.
Métaphoriquement.
Métaphoriquement, d'accord. Oui, puisqu'il est infecté par un virus, c'est ça que tu veux dire. Puisqu'on peut l'attaquer, c'est qu'on peut le tuer. Donc, si on peut le tuer, c'est qu'il est vivant.
Voilà.
Ok.
Je sais plus si c'est
sur le raisonnement.
Ou Stallone, mais c'est un des deux.
Merci pour le raisonnement, mais c'est un peu ça l'idée, en effet. Du coup, voilà, ça pose même la question du vivant. Est-ce à la limite du vivant? Et alors, il y a une autre manière de le regarder, le virus. Parce que là, on parle que du. Que des. Alors, comment ça s'appelle? Ça s'appelle. Des particules virales.
Oui.
Tu vois, les machins qui vont se transmettre. Mais en fait, le virus, c'est un cycle de vie. Comme un insecte. Comme un être humain. Comme plein de choses. Et du coup, en fait, si tu le regardes que quand il est particule virale, c'est-à-dire dans la phase de dissémination, ben en fait, tu regardes que la moitié de sa vie. L'autre moitié de sa vie, c'est quand il a infecté une cellule. En gros, il a fusionné avec la cellule, parce que ça revient à ça, il fusionne les membranes, en fait.
Oui.
Une protéine spécifique pour le faire. Il fusionne les membranes et son information génétique va se mélanger à l'information génétique de la cellule. Ça, c'est même les rétrovirus vont carrément aller écrire dans l'ADN de la cellule et utiliser surtout toute la machinerie pour se dupliquer et pour avoir un métabolisme, pour vivre.
Oui.
Mais alors, cette cellule infectée, c'est plus vraiment une cellule, par exemple, de ton corps, du corps humain, quand t'as la grippe. Eh, mais c'est vivant, ce machin-là.
Ah oui, bien sûr.
Et c'est une phase du cycle des virus. Donc ça pose vraiment, vraiment, vraiment question. Donc le virus est en train de basculer dans le vivant tranquillement, là. De plus en plus. On va dire que le consensus est en train de se dessiner vers ça. Mais on est au début. Donc on peut pas vraiment dire que c'est vivant, on peut pas. Enfin, voilà. Tu sais, c'est comme le chat de Schrödinger. Non, rien à voir.
Ah non, tu vas pas réintroduire du quantique dans les virus, s'il te plaît, quoi. C'est bon, là.
Voilà. Alors si on fait le parallèle avec l'être humain. Nous, notre véhicule de dissémination, c'est les gamètes, donc l'ovule, le spermatozoïde. Si on devait étudier l'être humain qu'au travers de ces gamètes, on raterait quand même pas mal de choses sur l'être humain.
On aurait une image partielle. Oui.
On est très partiel. C'est un peu ça avec le virus qu'on fait,
d'accord.
Si tu veux. Et si on fait avec l'arbre, c'est pareil, c'est la graine et on n'a pas tout.
T'es en train de m'expliquer que le virus, il grandit, il a ses maladies infantiles, il fait ses premières dents, après il apprend à faire du vélo.
Non, je suis en train de t'expliquer qu'il fait un cycle.
Un cycle, justement, oui, d'accord.
Tu vois, un peu comme l'insecte, il y a un cycle où il est œuf, larve, imago. Et ben là, c'est un peu pareil, il y a j'ai oublié encore, la particule virale, et donc qui se balade et qui transmet, et il y a la cellule infectée qui est un morceau du cycle de vie du virus.
Entendu.
Voilà, comme s'il avait, si tu veux, pris une cellule d'assaut, il l'avait asservie, mais du coup, c'est lui, la cellule n'est plus elle-même, c'est lui qui s'exprime. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Du coup, je vais enchaîner avec 2-3 petites infos sur les virus, avant qu'on passe au deuxième morceau, si ça te va.
Moi, ça me va, surtout que c'est Iggy Pop, donc évidemment, ça me va.
Bah oui. Beaucoup de diversité chez les virus. Comme je disais en intro, on s'intéresse qu'aux virus qui gênent les humains.
Oui.
Donc, on suppose qu'il y en a des milliards, en fait, qu'il y en a partout, en fait, parce qu'on suppose de plus en plus, c'est difficile à dire, mais il y a quand même une discipline qui étudie ça s'appelle la paléovirologie.
Oui.
On suppose que le virus est là depuis le début du développement de la vie. Et qu'en gros, il infecte des bactéries. Et d'ailleurs, majoritairement, on pense qu'il y a des milliards de virus qui infectent les bactéries.
Oui.
Les bactéries, voilà, qui sont quand même
le substrat du vivant.
Voilà, le principal truc du vivant, oui. On va dire. Nous, on est des exceptions, plutôt.
Oui.
Et encore, nous, on vit en symbiose avec beaucoup de bactéries.
Hein. Oui, là encore.
La moitié des trucs qui sont vivants dans ton corps, c'est des bactéries.
Oui, je sais, le biotope et tout, quoi.
Voilà. Donc les virus sont développés en même temps que les bactéries, en même temps que la vie, quoi. Et ils font partie intégrante de cette vie. Et alors, c'est assez étrange même parce qu'ils contiennent de l'ADN, tu vois. Et par exemple, dans les virus géants qu'on est en train de... C'est les grands virus plus gros que les bactéries, les virus géants, quand on regarde leur ADN, 90% de ce qu'on voit comme ADN, on ne sait pas du tout ce que c'est. On ne l'a pas trouvé autre part dans le vivant.
C'est les aliens.
Exactement.
Je te le dis.
Donc, ça veut dire que c'est un nouveau monde qu'on est en train de découvrir. Voilà. Et alors, juste pour parler de paléovirologie, oui. C'est pas des fossiles de virus qu'on va trouver. Si on va regarder dans les ADN des êtres vivants, oui. En fait, par exemple, dans notre ADN à nous, tu vois, on sait que bon, il y a 1% de notre ADN qui sert à coder nos gènes et à notre vie et tout ça, qui s'exprime bien et tout. Il y a des séquences régulatrices et tout ça. Il y a des trucs qui servent après dans les 99% du reste. Mais il y a quand même un paquet de trucs, on sait pas à quoi ça sert, on sait pas ce que ça fout là. Et dans ces trucs-là, il y a 7%, on est à peu près sûr que c'est des restes d'ADN que des virus nous ont filés.
Ah, entendu.
D'accord. Des sauts. Tu sais, dans l'évolution, on en a parlé d'ailleurs dans notre émission sur les mutants, que en fait, si tu infectes une cellule reproductrice, un gamète, un spermatozoïde, l'enfant qui va naître, le bébé qui va naître, va lui porter l'ADN du virus dans l'entièreté de ses cellules. Et quand il va se reproduire, il va le donner à sa descendance et ainsi de suite. Donc en fait, ça se permet des sauts d'évolution. C'est un gros paquet d'ADN qui arrive d'un coup. Plop. C'est pas une mutation, c'est pas un truc, c'est un gros paquet d'ADN. Hop là, beaucoup d'informations.
Le virus n'aurait pas forcément qu'une fonction négative.
Et
encore négative, ça peut se discuter parce que.
Complètement.
Il supprime les individus trop faibles, par exemple.
Oui, il régule les populations.
Voilà.
Par exemple, dans l'océan, la moitié des bactéries de l'océan meurent chaque jour d'infection virale. Et mais t'inquiète pas, le lendemain, il y en a autant. Hein.
Ouais,
et tout va bien. Mais tu vois, ça permet une régulation, ça permet de stabiliser une population, ça permet tout ça. En fait, ça fait vraiment partie du vivant.
Du cycle,
exactement, de l'écosystème. J'en ai un peu fini avec mon virus, là.
Bon, il dit pas
pour l'instant. Bah ouais,
dirty little virus. Ah. Sale petit virus, va.
Exactement. Let's
Allez,
go.
On se retrouve.
À tout de suite. Quelle voix !
La classe internationale !
Ouais, on est d'accord. Voix magnifique, personnage grandiose, Iggy Pop, quoi. Mais Iggy Pop, il a jamais servi à faire un vaccin.
Oh, t'en sais rien, il s'est tellement mis de trucs dans les veines, je serais pas sûr. Pardon, peut-être. Pardon, Iggy, pardon.
Ouais, mais quand même, on utilise plutôt des virus pour faire des vaccins. On va parler un petit peu de comment, tu vois, cette idée d'amener de l'information génétique, tu vois, dans une cellule, par fusion des membranes, là. Donc, en gros, le virus, c'est un petit sac qui balade son information génétique et qui va la mettre dans une cellule. On va parler un petit peu de ça parce que c'est important, ça donne des idées. Ça donne des idées à l'être humain pour, justement, lutter contre les virus.
Ok.
Ok. Donc, en gros, produire des vaccins.
J'ai pas écouté ce que tu venais de dire parce que mais j'étais en train de regarder sur
et j'étais tout seul et j'avais du mal à parler, tu vois.
J'étais en train de regarder de quand datait la chanson d'Iggy Pop, ah, parce que ça m'intriguait vu les paroles, et en fait ça a été écrit pendant l'épidémie de Covid et enregistré, voilà, à cette époque-là.
Exactement, j'aurais pu te le dire ça, tu vois, si t'avais demandé.
Oui, mais bon, non.
Bah voilà, non, parce que moi je les ai bossées, les chansons.
C'est à peu près le seul boulot que t'as à faire, donc ça va, quoi.
Ouais, ça va. Hein.
Avec tout le côté vulgarisation scientifique, mais bon.
Oui, et puis c'est à chaque fois, c'est mon domaine, tu sais.
Voilà.
Hein, ça tombe pile poil sur mes domaines.
Exactement. Je sais bien que t'es virologue dans tes rêves les plus secrets.
Bien, du coup, le virus, le vaccin, c'est quoi? C'est on déclenche une réaction immunitaire. Le principe du vaccin, c'est de déclencher une réaction immunitaire dont ton système immunitaire va se souvenir pour que la prochaine fois qu'il croise un truc qui ressemble à ce virus...
Kaboum.
Bam. Ok. Mm-hmm. Ça va, le principe?
Ah oui, oui.
Et du coup, la première fois qu'on le fait, c'est avec quoi? C'est la variole.
Oui, ça je savais.
La variole est en fait sur une autre souche, une souche qui concerne les vaches. Et les gars, ils traient des vaches et ils ont des pustules de variole en fait sur les mains, mais qui sont bénignes, qui disparaissent. Mais par contre, elles ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau à des...
Ah, on s'est servi de ça?
Ouais.
Ah,
et un gars, il a prélevé le pus dans les pustules et il l'a injecté à des patients atteints de variole qui, de toute façon, allaient mourir pour beaucoup. Donc voilà, il a pour tester et ça a marché.
Okay.
Donc il savait pas ce qu'il faisait. Et
ça a marché alors que les gens étaient déjà infectés.
Ouais, en plus.
Ça a servi non seulement de vaccin, mais de...
Ça a soigné, ouais.
De prophylaxie ensuite, quoi.
Ouais, complètement.
Ok.
Et en fait, ça, le variant de variole qui a été utilisé s'appelait la vaccine.
Ah oui, d'accord, ok. D'où vaccin.
D'où le nom vaccin.
Ok.
D'accord. Et en fait, ça s'appelle un virus atténué. C'est-à-dire que c'est un virus de la même famille, qu'en gros, il ressemble tellement que le système immunitaire va le traiter pareil. Mmh. Sauf que lui, il est bénin. Pour l'homme.
Oui, non, parce que si, quand on m'a vacciné pour le tétanos, on m'avait filé le tétanos...
Ça aurait été dur,
c'était
ouais.
un peu contre-productif, on va dire.
Bah, on t'aurait tué, hein.
Voilà.
Voilà. Et donc, du coup, la variole, vite fait un petit point là-dessus, c'est le seul virus humain qu'on a complètement éradiqué de la planète. Oui. Grâce à la vaccination.
Oui.
Et ça tuait... Un enfant sur trois qui était atteint, il mourait.
Mais bon, Trump et son espèce de ministre de la Santé, là, Kennedy, là...
Ils vont nous expliquer que...
Ils y travaillent à le ramener, oui.
Ouais. Et non, la variole ne reviendra pas. Elle n'existe que dans certains laboratoires stockés.
Oui, donc on peut la ressortir.
Oui, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais elle n'existe plus, je veux dire, elle ne circule plus librement. Oui, elle ne circule plus librement. Voilà. Et alors, comment on peut atténuer? Parce que ça a été utilisé pour plein d'autres virus. Alors, je vais te donner des exemples, peut-être, si je les ai notés. Non, je les ai pas notés, c'est pas très grave.
Parce que, par exemple, la variole, il y a une, je sais pas si une légende urbaine ou persistante qui dit qu'on a distribué à certaines tribus indiennes d'Amérique du Nord
des couvertures pleines de variole. Variole et grippe.
Voilà.
Eh ben non, c'est pas des légendes. Hein.
Ah, super. Bon.
Ça s'appelle des attaques bactériologiques. Hein. Amérique du Nord et Amérique du Sud. Mais l'Amérique du Sud, moins volontairement a priori, mais la grippe leur a fait quand même très très mal.
D'accord. Bon, voilà. Passons.
Mais oui, c'est des armes. Hein. Mm. Ça peut être utilisé comme des armes. Comme... Mm. Voilà. Quand on a compris comment ça marche, quand on sait les transmettre, c'est facile. Alors, comment on obtient un virus atténué? Parce que là, il a eu du bol, il a trouvé une souche par hasard. Tu vois, mais comment, à partir du virus que tu as, t'obtiens une...
Par manipulation génétique?
Eh ben non, le premier truc à faire, c'est le laisser au repos. Tu le laisses infecter des trucs, là, et tu le laisses se développer, faire des générations, des générations, des générations.
Ah, il s'atténue comme ça?
Et ouais, parce qu'en fait, le virus, tu sais, à chaque reproduction, il va muter, il va faire des erreurs, et beaucoup plus que nous.
De codage?
Ouais, des erreurs de codage, une ou deux, à chaque fois qu'il se duplique.
Enfin, c'est
gigantesque.
Ah oui, je peux comprendre pourquoi il s'atténue. Ouais.
Donc, tu laisses des centaines de générations et t'obtiens un truc.
Oui.
Tu vas
ce qui va très vite en laboratoire, précisons.
Voilà. On les cultive sur des cellules, en fait, sur des cultures de cellules.
C'est ça.
Voilà. Et on arrive à le faire. Ouais, c'est vrai que dans la vraie vie, au début, quand ils faisaient de la virologie, tu dis un virus sur un cheval, les générations de cheval, t'en fais pas des...
Non.
Et les générations de plantes, bah, les mecs passaient leur vie à faire des boutures, des machins, des trucs. Enfin, c'était quelque chose, quoi.
Oui.
Et ça prenait du temps, c'était sur le temps long.
Oui, bah, alors que là, on peut arriver à faire... tous les ans, on refait le virus de la le vaccin de la grippe.
Ouais, on en fait même plusieurs, parce qu'il y a plusieurs variants.
Oui, voilà, c'est ça.
Ou alors on en fait un pour plusieurs variants, quand on a du bol. Mais
quand on a
voilà.
du bol.
Et donc, du coup, en fait, l'atténuation, si tu veux, le fait de le cultiver, ça va sélectionner l'espèce qui se cultive bien.
Entendu.
Et qui voilà, et on va faire et on fera en sorte que celle qu'on va choisir dans celle qui se cultive bien, bah, soit la pas virulente du tout. On va l'injecter, et comme il ressemblera comme deux gouttes d'eau au vaccin qui est méchant, oui. Bah le système immunitaire arrivera à faire une réponse.
D'accord.
Ok. Ensuite, donc ça c'est le principe, c'est le premier principe, c'est le vaccin atténué, vaccin vivant atténué. En fait, on t'injecte un virus. Voilà. Maintenant, il y a les virus inactivés. D'accord. Alors, on va les traiter par traitement chimique, ou alors juste par la chaleur. Mais sans les faire bouillir, sinon on les tue, mais on va les chauffer dans des étuves et tout ça. Et puis souvent des traitements chimiques avec des molécules chimiques qu'on va produire synthétiquement.
Ah d'accord, ils deviennent inactifs, ils ne peuvent pas contaminer,
voilà.
Mais ils sont reconnaissables par le système immunitaire.
Exactement, ils sont encore vivants.
D'accord.
Alors ils peuvent être morts, même on fait ça avec des virus morts aussi, ça marche. On les a tués, et en fait on les envoie parce qu'en fait, pour les repérer, le système immunitaire va se servir en gros de la gueule de la membrane extérieure. Et des protéines qui s'y trouvent.
De la silhouette, quoi.
Ouais, en gros, c'est ça. Ce qu'à l'intérieur, on s'en fout. Et du coup, comme quand il est mort, il perturbe encore un certain temps, ben en fait, il y a la membrane qui est là et on risque pas d'avoir une infection puisqu'il est mort.
D'accord.
Voilà. Pas mal, hein, comme idée. Oui, oui. En vrai, pas mal, hein.
Mais il faut. Non, mais moi, j'aime la science. C'est pas pour ça que je fais cette émission. Ouais.
Après, t'as les vaccins sous-unitaires. En gros, on va casser du virus en morceaux. On va t'injecter des morceaux, là, des fragments, des débris. Et c'est pareil, comme il existe encore de la membrane avec des protéines, des trucs, bah, ça va être isolé comme un intrus et puis ça va déclencher une réaction immunitaire. Pas inintéressant. D'accord? intéressant. Les vecteurs viraux et les virus synthétiques. Alors là, par contre, on y est. On prend des virus non pathogènes qui déclenchent pas la maladie. D'accord? Comme l'histoire du virus de la variole sur le pied de la vache. Ok, on les modifie, d'accord, pour qu'ils expriment des protéines sur leur membrane là, mais des protéines qui sont pas de ce virus là, qui sont d'un autre virus pour lequel on veut vacciner.
Oh
donc
oui.
En gros, on prend un virus inoffensif, on le déguise sur sa membrane en virus méchant, on l'envoie dans le système immunitaire va faire une réaction, va l'enregistrer, et du coup derrière, quand il va rencontrer le virus méchant, bam.
Entendu.
Intéressant.
Ça, c'est original.
C'est rigolo quand même. On prend un virus, on le déguise en un autre.
Non, c'est pas mal.
J'aime bien. Allez, plus fort. Plus fort, les vaccins génétiques. Le principe. Le principe, c'est quoi? En fait, pour lutter contre les virus, on a ce qu'on appelle les antigènes.
Oui.
Des choses qui vont se fixer, en fait, sur la membrane extérieure du virus. Donc, en repérant justement des protéines, là. Ils vont se fixer sur les protéines. Et, du coup, ils vont faire un gros amalgame. Et qu'après, l'amalgame, on va le dégager comme un détritus, si tu veux. Ça va l'immobiliser, ça va l'empêcher d'interagir avec le reste. Et en plus, on pourra l'éliminer facilement. OK. Donc, ces antigènes, en fait, pour un virus donné, bah, si le corps est capable d'en produire, mais il sera capable de se défendre.
Oui.
Bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut d'abord reconnaître le truc et tout ça. Mais je simplifie quand même.
Oui.
Grandement. Bah en gros, là, l'idée, c'est tu prends une capsule virale, donc un virus, tu as enlevé tout ce qu'il y a à l'intérieur, tu mets l'information génétique qui correspond à l'antigène que tu veux faire fabriquer, d'accord ? Et tu l'utilises comme un vaisseau, quoi. Tu le mets dans le virus, hop, et le virus va aller infecter les cellules et va donner cette nouvelle recette d'antigène.
Ah, d'accord, carrément.
But du jeu, infecter des cellules du système immunitaire. Pour qu'elles aient la nouvelle recette et qu'elles puissent produire directement de l'antigène. Aucun problème.
Non, oui.
Problème, nouvelle recette.
Décrit comme ça, ça a l'air simple. Oui.
Alors bon, c'est des manipulations génétiques, c'est vraiment pas très très simple à faire. Mais en gros, c'est ça l'intérêt. Et alors tout ça pour dire qu'on va mettre ça dans une goutte lipidique, dans une goutte de gras si tu veux, mais qui est quand même très particulier, qui est fait avec des nanoparticules et tout, ça demande de la technologie sympathique. Hein. Ok, et cette recette justement de la goutte lipidique qui va faire que ça marche bien, donc du substrat dans lequel on le met si tu veux, c'est ça qui est breveté.
Oui.
Elle brevetait pour chaque vaccin et chaque labo a vraiment breveté son truc et c'est ça qui coûte très cher à comprendre, à développer tout ça. Où
bien
y a
sûr, bien
la
sûr.
Technologie. voilà. Ça, c'est les vaccins génétiques. Donc, par exemple, les vaccins qu'on a utilisés à ARN messager, tout ça, ce sont des vaccins génétiques comme ça. En gros, on envoie un ARN messager. Donc, un ARN messager, on le rappelle, c'est la recette pour fabriquer une protéine, donc pour fabriquer un antigène. C'est la recette miroir de l'ADN. Hein. On se rappelle, c'est le négatif de l'ADN. Et du coup, bah, on fournit en fait la recette qui va rentrer dans le génome des cellules immunitaires infectées.
Oui, d'ailleurs, c'est un des gros...
Et ça marche extrêmement bien.
C'est un des gros aspects positifs du Covid.
Oui.
C'est qu'on a tellement développé vite la recherche sur l'ARN messager, etc., etc.
Non, elle était préexistante.
Elle était préexistante, mais on a vraiment mis un coup d'accélérateur.
Oui, surtout sur le côté production industrielle.
Voilà.
C'est-à-dire sur les procédés et tout ça, pour produire ça rapidement de manière industrielle.
Plutôt une bonne nouvelle.
Bonne nouvelle.
Dans un environnement qui est un peu anxiogène.
Oui, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on sait contrer une pandémie virale. On peut, en tout cas avec ce type de vaccin,
espérer le faire.
On a une d'alarme. Quoi. Et en plus industrielle.
Voilà.
À très grande échelle. Voilà.
À condition que le détroit d'Hormuz soit ouvert.
Oui, qu'on ait du pétrole pour faire tourner les centrales électriques.
Exactement.
Pour nos labos. Reste un dernier type de vaccin. On va être capable de faire dériver des virus pour les spécialiser. On va prendre le virus de l'herpès, par exemple, chez l'être humain. On va le spécialiser pour qu'il n'attaque qu'un seul type de cellule. Des cellules cancéreuses.
Ah oui.
Tu vois où je veux en venir. Et du coup, on va développer un virus très virulent.
Oui.
On va le rendre virulent.
Et qui ne nous affecte pas, nous, en tant qu'organisme.
Non, qui va repérer nos cellules cancéreuses.
D'accord.
Et donc, bon, les cellules cancéreuses, elles sont différentes les unes des autres et tout ça. Donc, c'est quand même un vaccin, très spécifique.
Oui.
Mais ça fonctionne.
Mais c'est ce qu'on lui demande.
Voilà, on lui demande d'être ultra spécifique. Et on va utiliser même des virus qui sont un peu plus. Qui peuvent être dangereux, comme la rougeole ou ce genre de truc. Mais en fait, c'est les souches qu'on aura déjà atténuées. Tu sais, pour les vaccins contre la rougeole, on les a déjà atténuées, donc ils sont mignons. Et on peut les utiliser comme... on peut en gros les dresser. Un peu comme tu dresses un chien de combat, quoi. Tu vas dresser ton virus pour aller bouffer des cellules cancéreuses.
Oui, là encore, c'est du ciblage, quoi.
C'est du ciblage très très fort, ouais. C'est très compliqué à faire, on sait pas tout à fait le faire encore, on le fait un petit peu. Et disons que ça fait une thérapie de plus avec la radiothérapie, la chimiothérapie. Ça fait une thérapie de plus contre le cancer,
quoi.
Ça,
on sait qu'on a fait des progrès incroyables ces 10 ou 15 dernières années.
Oh oui, sur le cancer, oui, c'est très fort.
Vraiment.
Et quand on sait qu'en plus, il y a beaucoup de cancers qui sont des suites d'infections par un virus, papillomavirus par exemple, on a l'espoir de tuer le virus avec un vaccin avant qu'il ait agi. Et même s'il a agi et qu'il y a une tumeur après, quand même de pouvoir bouffer la tumeur derrière. Donc bon, il y a pas mal d'idées et d'espoir là-dedans.
Très bien.
Voilà, on a fait un petit tour de ce que nous inspirent les virus pour faire des...
Alors, on va faire un voyage dans le temps maintenant ?
Ouais. On part dans une ambiance post-apocalyptique.
Tu vas y arriver.
Après, merci. Après l'apparition d'un virus qui a éradiqué l'espèce humaine. D'ailleurs, au passage, rapidement, c'est pas très très réaliste tout ça, parce que soit t'es un virus qui tue
un
beaucoup.
Un film de science-fiction grand public qui est pas réaliste, mais voyons. Vous racontez n'importe quoi, Simon.
Parce que soit tu tues rapidement tes hôtes et tu t'appelles Ebola et tu peux pas t'étendre parce que tu tues trop vite.
Oui.
Par exemple Ebola. Oui. Soit tu tues beaucoup moins et tu t'étends beaucoup plus, tu t'appelles la grippe ou le Covid.
Oui.
Et du coup, tu restes, on va dire, en vie, tes variants restent en vie et fonctionnent avec l'hôte avec qui tu es, mais tu tues quand même beaucoup, mais pas assez pour faire disparaître ton hôte. Et du coup, tu survis, mais du coup, t'es pas une pandémie qui va éradiquer l'espèce humaine.
Ah, écoute, il faut choisir.
Soit l'un, soit l'autre. Et là, c'est un peu les deux à la fois, quoi. Ça va vite et ça tue tout le monde, tu vois.
Ah, c'est l'armée douce, hein, je vois. Allez.
Voilà.
Et on conclut après.
Ça marche. À tout de suite.
Une terrible épidémie a anéanti la quasi-totalité de l'humanité entre 1996 et 1997. Il y a eu plus de 5 milliards de morts. Seul 1% d'entre nous ont survécu.
Et vous allez nous sauver, monsieur Cole ?
Comment voulez-vous que je vous sauve ? C'est déjà arrivé. Je ne sauverai personne. J'essaie simplement de recueillir des informations qui permettront aux chercheurs du présent de remonter aux origines du virus.
Parce que maintenant, ce n'est pas le présent, monsieur Cole ?
Non. Tout ça s'est déjà produit. 90, c'est le passé. C'est ce que je
monsieur
me suis...
Monsieur Cole, pour vous, 1996, c'est le présent alors, c'est ça ?
Non, 96, c'est aussi le passé pour nous. Écoutez-moi, il faut...
Oui ?
Il faut que... Il faut surtout que je passe un coup de téléphone. Et tout s'expliquera si je peux passer un coup de téléphone.
Qui expliquerait tout ? Et d'abord, à qui téléphoneriez-vous ?
Aux scientifiques.
Ah.
Il faut qu'ils sachent qu'ils m'ont envoyé dans une mauvaise année. Et il se trouve que j'ai la possibilité de laisser un message qu'ils peuvent capter depuis le présent. Est-ce que je pourrais passer un coup de téléphone, s'il vous plaît ?
Bon, allez, S'il vous plaît. C'est Bruce, quoi. Laissez-lui passer son coup de fil.
Il paraît vraiment complètement allumé. Hein.
Ah ben, il y a comme Brad Pitt qui est plus allumé dans le film.
En même temps, quand tu viens du futur, donc 2035, et que tu vas dans le passé pour aller régler un problème de pandémie, et que tu finis dans un asile et que tu dois t'expliquer, ça donne ça.
C'est comme le personnage de Linda Hamilton dans Terminator, hein, dans le 2 notamment, où ça commence, elle est à l'asile.
Ben oui, logique en fait. Tu ramasses un mec comme ça, qui tient un discours comme ça, tu dis, il est schizo lui, hein, je l'envoie à l'asile. Hein.
Oui.
Bah oui.
Alors que peut-être
il a raison.
Bon, il est temps de conclure car nous avons quelque chose comme une minute avant de lancer la dernière chanson.
Alors je te parle des chauves-souris.
Vas-y.
Chauve-souris, réservoir de virus. Pourquoi ? Parce que système immunitaire de dingue.
Oui.
En fait, c'est de dingue.
Il laisse porteuse saine.
Ouais, il laisse le virus vivre tranquille, mais il le limite énormément. Mmh. Et surtout, fait pas de réaction inflammatoire qui pourrait tuer la chauve-souris. Mmh. Voilà. Et alors, on pense peut-être que ça vient du fait que ce sont les seuls mammifères volants. Alors, c'est un truc de fou. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont un métabolisme complètement différent parce qu'en fait, ils sont capables de griller un tiers de leur graisse en une journée.
Ah oui, d'accord.
Ouais, le fitness, hein.
Mmh.
Tu vois ? Le cardio, tout ça. Et du coup, en fait, ça fait un métabolisme. Du coup, quand tu as un métabolisme qui va aussi vite, tu produis beaucoup de toxines, beaucoup de déchets, et tu dois les éliminer très vite. Donc, en fait, ils ont un organisme qui est adapté au fait de produire énormément de toxines et tout ça. Donc, en fait, ils ne sont pas très impactés par la lutte contre les virus qui mènent en permanence.
Mmh. C'est pas leur faute, quoi. Voilà. Elles sont conçues comme ça.
Voilà. Et après, ça fait des millions d'années qu'elles sont là, qu'elles coévoluent avec les virus.
D'accord.
Qui vivent en leur sein, et qu'en plus de ça, il y a 1400 espèces de chauves-souris, donc, des centaines de virus hébergés par chauves-souris, ça fait beaucoup.
C'est bien de finir sur une note optimiste.
T'as vu ça?
Bon allez, justement, je parlais du fléau de Stephen King, la chanson suivante, Don't Fear the Reaper, de Blue Oyster Cult, est carrément en exergue du roman, et sert aussi comme générique des mini-séries. Donc, on se dit au revoir à ce niveau-là.
Et à bientôt.
Et à la prochaine fois, et on verra... On va aller discuter de ce qu'on fait.
Bah ouais. On va aller manger tranquille et discuter de ça.
Allez, à plus.
À bientôt sur CFM.
Bonne soirée, bonne journée, à bientôt.
C'est ça que je t'avais laissé pour la fin, celui-là.
Tu sais que j'ai pas coupé le micro encore. Mais c'est pas grave, on va le laisser. Au revoir.
Au revoir.
sens.